Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 144. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Leplante.
Pascal Plante, qui est un peu plus vieux aujourd'hui.
Oui, ben on est tous un peu plus vieux tout le temps, en fait, théoriquement.
Ouais,
mais aujourd'hui, particulièrement, disons que j'ai franchi un cap. C'est ma vraie fête de 28 ans.
Super. Donc, bonne fête et merci de passer une partie de cette journée à enregistrer un podcast.
Ah ben là, ben oui.
C'est très apprécié.
Mais ça.
D'ailleurs, tu vas fêter ta fête notamment avec des projections de films, mais ça, c'est en privé. Mais c'est bien Pascal, ça. Je te reconnais là-dedans.
Ben, peut-être qu'au prochain podcast, ouais, c'est ça, on va avoir des films à jaser. Tant qu'à faire, on peut bien le dire. Là, on va se claquer Hard to be a God de Alexei German. Le genre de film de sa vie, là, le réalisateur est comme décédé avant la complétion du film, si je ne m'abuse, puis c'est un film qui a été fait sur comme une dizaine d'années ou plus. En tout cas, il y a beaucoup de mythes autour de ce fameux film-là, science-fiction, médiéval. Non, je pense qu'on est... on va en avoir pour notre argent.
Ouais, honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça fait longtemps que je vais le voir, mais ouais. Tu sais, des fois, c'est juste l'occasion qui manque, parce que aussi, tu sais, c'est un film de 3 heures, donc des fois, c'est dur à placer dans une journée, mais...
Non, c'est ça.
J'ai très hâte de voir ça. C'est ça que t'as fait accessoirement.
Ouais. Donc, quelle meilleure journée que la journée de sa fête pour se prendre le temps pour voir Hard to be a God. Mais ça, là, on n'a pas encore d'opinion. Peut-être la suite au prochain podcast. Par contre, on a des opinions sur plein de films, là.
Plein de choses, oui. Avant d'aller dans les critiques de films, j'ai une couple de trucs à dire pour nos auditeurs, notamment de suivre notre page Facebook régulièrement, de la consulter, parce qu'on a des concours, on a des choses qui se passent dessus. Notamment, en ce moment, on a un concours pour la première du film « Juste à la fin du monde » de Xavier Dolan. Qu'on ne présente plus. Et ce qui est vraiment bien avec la sortie, les gars, moi, je l'ai appris là, ça, il y a quelques jours à peine, mais la première du film, on a un concours en ce moment, c'est lundi matin que je vais choisir les gagnants au hasard, en fait, là, avec mon logiciel. Et on a 3 dons, laissez passer double à faire tirer. Les règles sont très simples, il faut aller voir sur notre page Facebook. Mais le 12, c'est le lundi 12 septembre, la première du Montréalaise du film. Ça joue en 35 mm au Théâtre Outremont. Mmh. Et en fait, il va y avoir une sortie en 35 mm au cinéma de Beaubien et au cinéma du Parc. Au cinéma Beaubien, ça va être donc la version française et au cinéma du Parc, la version française sous-titrée en anglais. Sur 35 mm. Donc,
est-ce que ça avait été tourné en pellicule?
Ben oui, c'est ça en fait.
Ah, okay.
Je suis pas mal sûr qu'à Cannes, ça a dû être tourné en pellicule. Ça a dû être montré, pardon, en 35 mm. Parce que j'imagine qu'on essaie toujours d'avoir la meilleure version possible pour Cannes. Et c'est ça, c'est Xavier Dolan qui collabore encore une fois avec André Turpin. Puis c'est le fun de voir des cinéastes comme ça qui se battent encore pour la pellicule. Puis c'est juste un détail, là, mais moi, je trouve ça vraiment excitant de voir encore l'année prochaine, le prochain film de Nolan, il sera en IMAX, il sera en pellicule. Tu avais le dernier Tarantino qui était en 70 mm. Je l'ai vu au Banc Scotia, c'était magnifique, en 70 mm. Puis maintenant, c'est ça, le film de Xavier Dolan qui va sortir dans 2 semaines. Donc, c'est vraiment cool, puis props pour ça. Puis ensuite, bon, on va juger la qualité du film, mais a priori, grand prix à Cannes, donc j'ai beaucoup d'attentes pour le film, même si toutes les critiques n'étaient pas élogieuses.
Moi, je pense pas qu'il faut avoir beaucoup d'attentes pour celui-là. Tu sais, des fois, c'est aussi des prix qui sont remis à cause de, pas de l'ensemble de l'œuvre, mais tu sais, parce que le cinéaste est rendu là, mais...
l'ensemble de la carrière.
Moi, j'ai lu beaucoup de trucs mitigés, en fait.
Quoi? Honorifique pour l'ensemble de la carrière de
Xavier Dolan.
Ouais, c'est ça, ben, il est rendu là. Ouais.
Mais en tout cas, c'est très bien. On a également un autre concours dans les prochains jours. Je peux pas encore l'annoncer, mais surveillez la page Facebook pour un autre gros film qui s'en vient. J'ai très hâte de partager ça. Tu me fais penser, Rémi, je voulais pas en parler, mais je suis vraiment excité de savoir. Je pense que je vais écouter les prochains Oscars, OK? Pour une très bonne raison, c'est qu'un de mes héros là, de tous les temps reçoit un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière cette année.
C'est qui?
C'est Monsieur Jackie Chan himself.
Ah oh, ouais!
Ouais, ils ont annoncé, il y a 3 personnes qui vont recevoir, je ne me rappelle plus des 2 autres, mais quand j'ai vu ça, Jackie Chan, j'étais comme, ah ben oui, tu sais, c'est évident, parce que, tu sais, pour moi, ça reflète, ça reflète, je pense, l'importance de la Chine dans le cinéma contemporain, hein, c'est important de flatter la Chine dans le sens du poil, parce qu'ils rapportent de plus en plus d'argent, non mais c'est vrai, tu sais, je pense que ça s'inscrit un peu dans
ce volonté-là. C'est vraiment drôle de France, ça. C'est le fun de flatter la Chine dans le sens du poil.
Non mais, dans le sens que, tu sais, Hollywood les courtise, là.
Ouais, mais, on parle pas de l'Ouest de Montréal.
Mais tu sais, Jackie Chan, c'est le genre d'artiste, justement, que jamais un de ses films aurait quelques Oscars que ce soit, tu sais, c'est pas vraiment son style de carrière, puis il n'a jamais aspiré à ça. Mais d'y donner un prix pour l'ensemble de sa carrière, je trouve que ça tombe dans la logique. T'sais, parce que vraiment, on peut ne pas aimer son cinéma, mais son apport au cinéma d'arts martiaux est indéniable.
Mm-hmm. Ouais, c'est une légende, c'est vraiment une légende. Là. C'est...
Mais en même temps, les Oscars honorifiques, c'est souvent, je pense, quand la carrière commence à ralentir. Jackie Chan, par contre, c'est étonnant, là, mais il est encore super prolifique. Ben là, il y a le Rush Hour 4 éventuellement là, qui est annoncé, mais...
Non, pour vrai?
Ouais, 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 ben oui, pour vrai. Mais il y a d'autres films, il prête aussi sa voix sur beaucoup de... pour les Kung Fu Panda, entre autres. Là. Mais, il est encore d'actualité, disons ça comme ça. C'est sûr que, par contre, ça n'aura pas le choix de ralentir, parce qu'à un moment donné, l'âge rattrape l'homme, là, dans un sens. Puis comme lui, sa marque de commerce, c'est vraiment de pouvoir faire lui-même ses cascades. Je pense que c'est un des grands appels qu'ont ses films. Là.
Il a mis déjà un terme à ça.
Il y a un frein là-dessus. Ouais,
son dernier film d'action, c'est vraiment Chinese Zodiac, dont j'avais écrit un texte pour Point de vue. Mais depuis ce temps-là, il fait plus des drames ou des rôles moins physiques.
Ben, effectivement, peut-être que l'Oscar honorifique fait du sens parce que c'est un peu la fin d'une époque, là, peut-être pour Monsieur Chan. Mais toi, tu manques pas une occasion pour t'enthousiasmer sur Jackie Chan, là, Paul. Là. Toi, c'est comme tout le temps là, le sourire aux lèvres, les yeux béants. Ouais.
Ben, écoute, je pense que pour notre génération de gens qui ont grandi avec les films des années 80-90, il y a beaucoup de gens qui vont avoir comme héros Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone ou Jean-Claude Van Damme ou ce genre de figure mythique un peu là, qui défie les capacités physiques normales d'une personne. Mais moi, je me suis toujours identifié à Jackie Chan pour X raisons. Puis j'ai jamais vraiment. Tu sais, quand j'étais jeune, je théorisais pas mon admiration pour la personne. Là, maintenant, peut-être que j'y réfléchis plus, mais c'est venu naturellement, puis c'est jamais vraiment parti. Puis pour moi, c'est ça, Jackie Chan, c'est un peu... C'est comme l'héritier improbable entre Bruce Lee puis Buster Keaton. Là. Quelqu'un qui te fait rire, mais que ce qu'il fait, c'est quand même hallucinant. T'sais.
C'est une bonne comparaison, ça, en plus.
Ouais, puis tu sais, ce qu'il fait aussi, je pense que j'admire beaucoup aussi, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de ses making-of de ses films, des articles ou des documentaires sur lui. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un travail d'orfèvre, là, faire des chorégraphies comme ça. Puis pour moi, son art, c'est comme, mettons, ça se ressemble à du stop motion ou ça ressemble à d'autres types de cinéma qui sont, tu sais, c'est du travail artisanal, du travail où tu mets la main à la pâte. Puis lui, ben, c'est avec ses cascadeurs, c'est son équipe, tu sais, qui passe des semaines dans différents décors pour, tu sais, réfléchir à quel type de scène on pourrait mettre. Parce que quand ça arrive sur l'écran, tu sais, c'est rapide, c'est fluide, c'est parfait. Puis, tu sais, ça a l'air facile, puis là, il y a une petite blague, fait que c'est drôle. Mais, tu sais, la somme de travail pour en arriver là, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que ça fait partie des raisons, des multiples raisons qui fait que j'admire son œuvre, là.
Ah oui, bon.
Voilà. Donc, props Jackie Chan.
Props!
Sinon, parlant de légende du cinéma, un grand nous a quittés cette semaine. Et ça sera intéressant de savoir un peu quel rôle vous a marqué de Gene Wilder, parce qu'il y a tellement une longue carrière.
Ouais.
Comme là, toi, Pascal, cette semaine, t'as écouté Willy Wonka pour la première fois.
Pour la première fois, et je n'avais jamais vu le remake avec Johnny Depp. Je sais pas pourquoi, ce film-là, ce conte-là, m'a jamais attiré.
As-tu regardé celui avec Johnny Depp après?
Non, pas du tout. J'ai juste vu pour la première fois de ma vie le Willy Wonka and the Chocolate Factory de 1971, là, l'original avec Gene Wilder, pour payer mon hommage à ma façon, peut-être là, à ce grand. Je connais le travail de Gene Wilder, ben, tu sais, beaucoup avec Mel Brooks, dans Blazing Saddles, Young Frankenstein, The Producers. Bon, tout ça. Moi, en fait, c'est vraiment ça. Je pense que je l'avais toujours un peu mis de pair avec Mel Brooks. Autrement, je vous avoue que, évidemment, il y a un immense respect pour Gene Wilder, mais peut-être un manque d'érudition là, de ma part par rapport à ce qu'il fait. Donc, si jamais vous avez des... je sais pas si tu voulais te lancer un peu dans sa semi-biographie ou des rôles marquants qu'il a fait, mais en fait, je suis très curieux. Je serais curieux moi-même d'en savoir plus sur un peu sur Gene Wilder. Maintenant qu'il est plus, tristement.
Ouais, non, mais je suis un peu dans ton cas, en fait. C'est que pour moi, je l'associais tout à fait à Mel Brooks.
Ouais,
puis,
c'est ça.
Puis je pense aussi que les films de Mel Brooks, là, on parle beaucoup de mon enfance là, jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose vraiment que j'ai grandi avec ça un peu, ces films-là. Puis, Jack Chan d'un côté, Mel Brooks de l'autre. Puis non, c'est vrai que, tu sais, Blazing Saddles, pour moi, je sais pas, je trouve que c'est une très bonne performance. Là.
Ouais,
très subtil aussi, tu sais, c'est pas. Puis l'acteur apporte beaucoup, en fait, au rôle. C'est pas seulement dans le dialogue ou dans la mise en scène. c'est dans son interprétation des répliques, sa manière de jouer. Il comprenait tout à fait, tu sais, le timing comique. Ouais. Puis encore là, ça doit sûrement faire preuve d'un travail en amont qui doit sûrement être très impressionnant.
Oui, d'un charisme naturel, j'ai l'impression, d'une excentricité aussi, naturelle. Ouais. Parce qu'on va y venir, là. Moi, je vais en parler de Willy Wonka. Je veux dire, s'il y a un exemple, tu sais, d'un acteur. Parce que c'est au-delà du comique, je crois. Gene Wilder, je pense que tu l'as bien dit, je pense que c'est vraiment des grandes performances, et il crée des personnages, c'est au-delà du timing, j'ai l'impression. Mais bref, je vais y venir pour Willy Wonka parce qu'il m'a fait une très très forte impression dans ce film-là particulièrement.
Moi, si je parle, on a été deux autres, là. Il y a le sheep fucker dans le film Everything You Wanted to Know About Sex, But You Were Too Afraid to Ask, de Woody Allen. Je sais pas si il doit me manquer deux, trois mots, là, dans ma phrase, là, mais, puis aussi un autre de Mel Brooks, The Producers, qui est le deuxième film de Mel Brooks, mais qui est comme un classique de 77, ouais. Qui est vraiment, avec l'humour vraiment edgy pour l'époque, là. Tu sais, des références au nazisme, là, mais à tourner à la dérision. Mm-hmm. Puis il y a Gene Wilder, c'est un des deux producteurs qui mettent en scène le pire show de Broadway. Encore là, c'est un peu son personnage, comme tu dis, charismatique, mais en même temps, t'as le génie comique en arrière de ça, t'as les moments de malaise, les moments awkward. C'est un peu ça qui arrive dans Willy Wonka. Je pense juste sa présentation dans Willy Wonka. La première fois que tu le vois dans le film, c'est tellement, tellement
marquant. Ah oui, ça, c'est superbe. Je peux pas empêcher, par exemple, de savoir. On dirait qu'il y a toujours son visage qui a immortalisé l'écran. C'est vraiment cette période-là, peut-être, de Producers, tu sais, donc fin 60 jusqu'à peut-être fin 70. À partir des années 90, qu'est-ce qui advenait un peu de Gene Wilder? Ça, c'est un peu... T'sais, il a vraiment un peu sorti de l'œil public, j'ai l'impression. Mm-hmm. Là, parce qu'on n'a comme pas de référence récente.
Ben, il avait officiellement pris sa retraite du cinéma aussi. Je ne sais pas exactement en quelle année. Mais c'est ça. Donc, ça faisait plusieurs années qu'il ne faisait plus de films.
Mm-hmm. Il a fait des petits trucs, genre des voix, puis fait des comebacks comme ça. Il avait fait un Alice in Wonderland en 99 que j'avais vu. Là, c'était un adapté pour la télé. Mm-hmm. Là. Je ne sais même plus exactement quel rôle il faisait, là, mais je sais qu'il avait un petit rôle là-dedans, mais... C'est comme il popait à gauche, à droite, mais je pense que ça faisait au moins 10-12 ans qu'il n'avait pas fait de rôle substantiel.
Non, mais c'est drôle de voir un peu qu'un Johnny Depp est un petit peu comme dans le sillon d'un acteur comme Gene Wilder, tu sais, dans un sens. Hein. Mais, tu sais, je pense pas que c'est complètement un hasard, mais entre Willy Wonka et tu sais, Alice in Wonderland. Non, c'est ça, c'est quand même curieux de voir un peu tout ça évoluer en parallèle.
Ouais, c'est vrai.
mais ouais, c'est ça, êtes-vous curieux de savoir un peu ce que j'en ai pensé de Willy Wonka? Ben Willy Wonka, c'est ça, c'est un scénario et c'est adapté d'un conte de Roald Dahl. C'est très étrange. C'est un film qui... Moi, je suis curieux. Comme je dis, j'ai pas vu le remake, donc j'ai pas de référent actuel. Mais je sais pas si c'est un film qui... Je sais pas à qui ça s'adresse exactement, ce film-là. Je sais pas si, mettons, moi, j'ai des enfants. À quel âge ils vont écouter Willy Wonka? Parce que... On va se le dire, là, c'est vraiment étrange.
Il y a des scènes d'horreur, là, genre la scène de bateau, là, c'est une scène d'horreur. Là. Les enfants, ils sont dans un bateau, puis il y a des images là, de genre quasiment sanglantes là, qui flashent sur les murs, qui les hypnotisent. C'est comme... C'est creepy, là.
Ah, c'est super creepy. Ça. Puis tu sais, dans les années 80, il y a beaucoup de films familiaux avec un peu de saveur, tu sais, avec un edge. On parlait des, genre, les labyrinthes, Neverending Story, tu sais, ces films-là. Tu sais, c'est des films qui avaient comme pas peur. Jumanji, ben ça, on est rendu dans les années 90, mais tu sais, c'est des films qui ont pas peur de mettre, tu sais, l'enfant ou la famille, là, dans, tu sais, parce que c'est ça leur public cible, dans des zones inconfortables, tu sais, carrément. Mais... Pour moi, est-ce que Willy Wonka and the Chocolate Factory est un film pour enfants? C'est un peu posé la même question que est-ce que, mettons, Edward Scissorhands est un film pour enfants? Le film met en scène des enfants dans le cas de Willy Wonka, mais vraiment, je... Puis tu sais, mais c'est que c'est super étrange la ligne que ça joue parce que, tu sais, d'un côté, t'as les Oompa Loompa qui sont... je vais faire un petit synopsis rapide avant de continuer, mais tu sais, t'as comme les Oompa Loompa qui, à chaque fois qu'un enfant disparaît, vont genre faire une chanson de la morale à suivre. Donc, ça s'adresse clairement à des enfants. Mais est-ce que l'enfant va vraiment... C'est comme se claquer Willy Wonka et le Chocolate Factory. En tout cas, c'est toute une grande question parce que ça va veut pas teinter mon appréciation du film. J'ai vraiment... je sais vraiment pas comment le prendre, ce film-là.
Mais Roald Dahl aussi, c'est tous ses contes, en fait, il y a des trucs vraiment dark, tu sais. Je regarde sa bibliographie, là. Il y a James and the Giant Peach, Matilda, The Witches. Matilda, The Witches est adapté par Nicholas Rogue avec Jim Costume, là. C'est vraiment des films creepy, là.
Mais vous vous rappelez comment Matilda, justement, ça avait soulevé un tollé, là. Je veux dire, la vieille harpie, tu sais, c'était comme elle faisait peur, là.
Miss Trunchbull.
Mais c'est peut-être moins que que le film était edgy que c'est le cinéma d'aujourd'hui pour enfants puis pour familial qui est aseptisé. Tu sais, peut-être il y a peut-être un peu des deux, mais. Oui. Mais tu sais, moi je me rappelle d'avoir vu très jeune justement l'histoire sans fin, puis c'est le genre de film que je trouvais fascinant, puis
tu
sais, faut pas non plus infantiliser les enfants, dans le sens que les enfants comprennent beaucoup de choses quand même.
Ah non, ça là-dessus, puis je suis 100%, je suis un converti de ton idée complètement. Bon, fait que Willy Wonka et la chocolaterie. Donc, Charlie et la chocolaterie, c'est quand même drôle qu'en français, d'ailleurs, il ait flippé le titre. Là. Mais bon. Et,
non, mais c'est les deux titres, hein, parce que c'est de Charlie and the Chocolate Factory, le remake.
Ah.
C'est le titre original du livre, en fait. C'est pour le film, ils ont mis Willy Wonka. Puis d'après moi, ça doit être. C'est vraiment d'après moi, là, mais je pense que c'est un truc publicitaire. Là,
publicitaire.
Que la compagnie était super connue, puis ils voulaient le vendre comme ça, tu sais.
OK, bon, ben, en tout cas.
Mais c'est deux titres différents, en fait, l'original puis le remake.
Mais c'est ça. Donc, on suit le petit Charlie, un jeune vaillant, sans le sou, mais avec le cœur à la bonne place. Avec, c'est ça, un grand-père malade, là, élevé, tu sais, un peu dans la misère. Et tu sais, il voit les enfants manger des chocolats, acheter des chocolats, passer tout leur argent de poche sur des friandises, puis lui est donc envieux de tout ça. Mais là, lorsque Willy Wonka, une compagnie légendaire, puis c'est comme un peu un monde parallèle où tout le monde est vraiment addict au sucre, là, tu sais, c'est comme, c'est vraiment particulier, l'univers représenté dans Willy Wonka and the Chocolate Factory. Et mais donc, lui, c'est son grand drame de ne pas pouvoir vraiment s'adonner à sa dent sucrée comme il voudrait. Comme il voulait. Et là, Willy Wonka part un concours planétaire. Donc, sur la million de barres de chocolat Willy Wonka, il y a 5 billets d'or pour aller visiter la chocolaterie légendaire fermée au public. Et par la bande aussi, les jeunes, ils vont être approvisionnés de chocolat à vie. Donc, évidemment, là, tout le monde. Et puis là, le film d'entrée de jeu, on introduit un peu le cirque là, qui est autour de tout ça. Donc, t'as, par exemple, une petite gosse de riche, tu sais, que comme son père, il achète des caisses et des caisses et des caisses, puis il y a juste des gens dans une chaîne de montage qui, on dirait un sweatshop, là, d'ailleurs, puis là, ils font juste ouvrir les barres de chocolat pour espérer peut-être trouver un des 5 billets cachés. Bon, c'est un des exemples. Et puis là, de fil en aiguille, comme ça, là, il y a les 4 premiers billets d'or qui sont trouvés par 4 enfants. Bon, ça, c'est un petit peu arrangé par le gars des vues, mais bon, c'est pas grave.
C'est un conte, c'est ça,
évidemment. Donc, et puis là, le dernier billet, ben on le devinera, mais c'est Charlie qui trouve d'ailleurs une pièce de monnaie par terre. C'est un peu bizarre. Hein. Mais il trouve de l'argent, il va s'acheter la barre, et là, dans la barre, le billet d'or, c'est merveilleux. Et ensuite, donc, à peu près à quasiment à
demi-film. Pascal, t'es tellement critique de genre les accidents scénaristiques. Puis les...
Ah, man.
Tout le rapport Pulp Fiction, puis là, t'es comme, ben, voir qu'il tombe au coin de la rue sur son boss.
Non, mais ça marche parce que c'est tellement assumé, puis c'est à moitié pardonné parce que justement, c'est avoué au grand jour.
Ben, je pense que Willy Wonka
ça,
aussi. Là.
C'est de la paresse scénaristique. Tu sais, je veux dire, il aurait pu faire de quoi un petit extra pour gagner sa pièce.
Non, mais pour moi, c'est le petit côté fabuleux. Un peu du conte.
C'est la magie du conte.
Ouais, ben là, ok, si on commence déjà à tout excuser le film par la magie du conte, vous allez pas aimer ma critique. Parce que je suis quand même critique du film, pour vrai. Il y a certaines choses qui m'ont émerveillé, mais il y a certaines choses que pour moi, ça m'a laissé très froid, pour être bien honnête. Mais là, bon, c'est ça. Et à peu près à 45 minutes dans le film, donc il reste quasiment à mi-film, les enfants sont admis dans la chocolaterie. Et t'en parlais, Rémi, l'introduction du personnage de Gene Wilder est quand même assez épique, là, c'est vraiment très... Tu sais, il sort de la chocolaterie comme ça, en boitant, puis en tout cas, je vous dis pas plus qu'est-ce qui se passe si vous l'avez pas vu. Ça, c'est un des moments qui nous émerveille, je crois. Petits et grands, là, j'ai l'impression. Et là, on rentre dans la chocolaterie, et puis là, c'est vraiment... ben, tu sais, c'est un genre de rabbit hole, quasiment, là. Tu sais, on est à Wonderland, carrément. Tout se mange, les enfants, ils capotent, mais là, tu sais, chaque enfant qui représente chacun un genre de péché, un genre de vice, va ne pas suivre les règles et avoir un triste sort. Mais évidemment, Charlie a le cœur en or. Voilà. Donc, disons, ce serait mon synopsis. Toi, Rémi, le, ben, toi, Paul, d'ailleurs, tu l'as-tu vu, l'original?
Il y a longtemps, mais okay. Comme je m'en rappelle, tu sais, je m'en rappelle par bribes. C'est, ouais, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu. J'ai également vu le remake de Tim Burton. Mais pour moi, c'est ce genre de film-là, ben, je serais vraiment curieux de le revisiter, Willy Wonka, mais pour moi, ça me fait beaucoup penser à... Je mets dans le même panier ça, Wizard of Oz, puis il y a des films comme ça, où, tu sais, c'est simplement des invitations à des univers enchanteurs avec des très beaux costumes, tu sais, des couleurs impeccables. Donc pour moi, c'est plus ça, c'est des flashs que nécessairement une histoire prenante ou, tu sais, des moments forts. C'est plus comme... C'est l'univers qu'on visite là, qui est intéressant,
selon moi. Ben, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est, finalement, le scénario est un peu foutraque, mais ça donne libre cours à des scènes marquantes, je pense. Il y a des moments carrément d'émerveillement. La première fois que tu vois les Oompa Loompa ou les chansons comme ça, c'est sûr, je viens de le voir, donc j'ai aucun recul. Puis moi, c'est pas un film qui a habité mon enfance, mais je suis certain... J'oserais parier que ces images-là ne me quitteront jamais. Donc déjà là, on comprend c'est quoi la griffe d'une grande œuvre familiale. Mais encore là, est-ce que c'est familial? Rémi, tu l'as dit, je veux dire, il y a des scènes straight out de films d'horreur. Tu sais, on avait vu le film japonais Haosu là, ensemble, Paul. Là. Pour moi, c'est quasiment plus proche de ça que de n'importe quel film pour enfants contemporain, tu sais. Donc,
Haosu, le public cible, c'est un peu, je pense, les jeunes écolières aussi. C'est plus ado, là, mais ça vise pas nécessairement les adultes non plus.
Mais rendu là, pour vrai, le remake est quasiment plus creepy, je te dirais.
Ah ouais?
Parce que Johnny Depp est tellement bizarre dans ce film-là. Genre, il s'est basé sur Michael Jackson pour la façon qu'il parle, la façon qu'il agit. Ouais. Je te jure, c'est parce que Gene Wilder, il est charismatique, puis tu comprends pourquoi il est au centre du film, puis je veux dire, pourquoi il est attirant pour les enfants, dans le sens que, tu sais, il est comme, il est friendly avec, non, c'est un peu bizarre dit de même, là, mais il est friendly avec les enfants, puis il y a un beau côté là, là-dedans, là. Mais Johnny Depp, il n'aime pas les enfants dans le remake, puis il montre, il veut pas leur toucher, il veut pas les approcher, il est mal à l'aise. Là, il y a comme un historique sur son enfance que, quand il était jeune, il avait des problèmes avec son père, puis là, c'est ça qui l'a rendu mal à l'aise. Son père voulait qu'il vieillisse plus vite que ce qui est... Fait que c'est vraiment comme le mythe de Michael Jackson, mais c'est bizarre, là. C'est vraiment, là, il est creepy, là, dans... C'est puis mais le remake par exemple, ce qu'il y a de un peu mieux d'après moi, c'est l'univers est un peu moins c'est parce que l'univers féerique avec la technologie, avec le visuel de Tim Burton est comme quand même mieux fait, parce que dans l'original c'est impressionnant, mais en même temps la rivière de chocolat, c'est de l'eau avec du brun dedans là, ça a pas de l'air d'être du chocolat, est comme genre un peu boboche. On le pardonne parce que c'est un vieux film, puis parce que il y a de la créativité autour, mais le remake, je pense que le bon point c'est le visuel du film est vraiment mieux fait. Ouais. Mais après ça,
En même temps, comme il a juste refait un peu ce qui était déjà créé, pour moi, ça n'a pas beaucoup de... J'ai pas vu le récent remake de Oz avec James Franco.
Ah, c'est épouvantable, ça, de Sam Raimi, là.
Ouais.
Le nouveau Oz, c'est pas un remake, c'est un prequel.
En tout cas, un nouveau film adapté de cet univers-là.
Mais c'est vraiment pas bon, là.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tous ces films-là sont pas aussi mémorables que l'original. Parce que l'original a quand même le mérite d'apporter cet univers-là, tu sais, puis de le mettre à l'écran pour la première fois. Tu sais, même si c'est basé sur un livre ou peu importe, c'est que le premier film au cinéma qui fait ça, je trouve, a beaucoup de mérite pour justement choisi les costumes, choisi... le ton,
c'est sûr.
Ah, puis attends, tu penses que les Oompa Loompa de Donald Trump, là, parce qu'ils sont comme orange, là, ils sont comme creepy, là, mais genre ceux du remake, là, c'est comme. C'est le petit. C'est un nain là, qui joue dans. Une petite personne, excusez-moi, qui joue dans, Big Fish, là. Il est genre dans le cirque là, avec Danny DeVito, là.
C'est comme lui qui est cloné digitalement, là, sa face, là, comme God. Ça.
C'est parce qu'il est comme... Il est humain dans son visage, mais tout le reste est comme un peu difforme. Là. C'est weird, là.
Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 11 ans que le film de Tim Burton est sorti. J'ai l'impression que dans le discours général, si on parle de la chocolatrice, on va plus souvent référer maintenant à Willy Wonka.
Ouais.
Ce qu'on gagne avec les effets spéciaux et la technologie avancée, Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est un échange qui en vaut la peine ou on préfère l'original avec ses failles, ses failles d'usage?
Ouais, ouais. Mais tu sais, en tout cas, mais dans l'original, il y a vraiment, puis je sais que c'est le point du film, mais tu sais, comme tous les autres enfants, incluant leurs parents, là, je veux dire, ils sont à fesser dedans, là, je m'excuse, là, mais comme, il y a quelque chose de vraiment grinçant, agressant, dans le comportement extrêmement infantile et des parents et des autres enfants. Puis le contraste est vraiment grossier, tu sais, entre justement le petit Charlie qui est donc, tu sais, parce qu'il vient d'une famille modeste, il est donc... pur, là, je sais pas, il y a quelque chose, puis la fin, c'est comme le revirement à la fin, je n'en dirai pas plus, mais tu sais, c'est... Oui, pardonnons-le parce que c'est un conte, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut pas trop l'intellectualiser, je pense qu'il faut se laisser émerveiller, et définitivement, il y a des moments, pour moi, c'est ce film-là fonctionne par bribes, tu sais, j'aime bien la théorie du cinéma de, tu sais, Harmony Korine qui disait ça, je me rappelle jamais des histoires, je me rappelle juste des scènes fortes, puis c'est pour ça qu'il a fait Gomo, là, mais pour moi, en fait, c'est probablement ça qui va rester, parce que l'histoire, les personnages même, là, tu sais, c'est vraiment, je pense, à propos des scènes individuelles. Les numéros musicaux m'ont pas transporté, je pense que, en fait, les moments les plus forts dans le film sont pas nécessairement les moments musicaux, étrangement. D'ailleurs, ça m'a surpris à quel point que c'était pas... Je sais pas, peut-être qu'un manque de moyens se fait sentir souvent dans ces moments-là, alors que traditionnellement, les musicals, quand c'est les moments musicaux, c'est là où le feu part au bout, puis tu sais que waouh, on vire complètement fou. Et ça, depuis les années 30, là, depuis l'avènement des musicals. Bon. Donc, ouais, voilà, je pense qu'on s'est assez éternisé, sur Charlie la chocolaterie. Mais je me méritais. Ce visionnement, puis repose en paix, Monsieur Wilder. Gene.
Super. Au courant des prochaines semaines aussi, je vous invite à voir notre site web et notre page Facebook, parce que nous, il y a plein de festivals cet automne qui s'en viennent, et on prévoit des couvertures, notamment pour le FCVQ. D'ailleurs, toi et moi, Rémi, on y va ensemble, notamment.
Ah, cool.
Film Pop également, la petite section qui est programmée par notre ami Ariel Esteban Caillé du Festival Pop Montréal. La programmation a été annoncée sur leur site web. C'est une dizaine de films, notamment la projection gratuite pour le 20e anniversaire du classique Space Jam.
Hein?
Également une...
Quoi?
Ouais, Space Jam, 20 ans, version pas version restaurée, mais une projection anniversaire.
Hey, mais on s'entend que ce film-là, genre le film de Bugs Bunny avec Michael Jordan.
Ouais.
On parle vraiment de ça, là.
Mm-hmm.
My God, OK. Je sais pas, en tout cas... Ça, c'est, on s'entend qu'avec le temps, c'est un so bad that it's good, là.
On s'entend.
C'est vraiment pas très bon, là.
Je suis vraiment curieux de revisiter ce film-là. Il y a quand même des choses qui ont marqué la culture pop. T'sais, dans le sens que la chanson thème, là, tu peux l'entendre dans n'importe quelle aréna de sport. Ça va au-delà de son film. Ça a quand même marqué un peu une certaine époque.
Un peu comme la toune de Wild Wild West est au-delà du film, là. C'est comme c'est vraiment dans la même lignée,
ouais,
là.
Mais tu vois, je réécouterais Space Jam n'importe quand, alors que Wild Wild West, j'ai pas le
désir. Ouais.
C'est sûr, mais c'est vraiment comme un... C'est comme une bulle sur les années 90, là. Tu peux comme...
Ouais, ben c'est ça.
C'est vraiment, là, sa vie avec une année précisément, pis... Ouais.
Ben, c'est ce qui, selon moi, fait son intérêt, en fait. C'est pas l'astuce de sa mise en scène.
Ouais.
C'est justement que c'est tellement années 90, comme les Tortues Ninja, mettons, les films live.
Ouais.
Pour moi, cette trilogie-là, ça a tellement marqué une époque.
Tu peux pas faire ça ailleurs, là.
Ouais, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'il y aura jamais de remake non plus des Tortues Ninja. C'est trop marquant. Hein. Ensuite, donc c'est ça, Film Pop, notamment aussi une version restaurée ou... c'est une version restaurée? En tout cas, une copie 35mm de Multiple Maniacs. Et d'ailleurs, ça, on le savait déjà, mais John Waters est à Montréal. Là,
et j'ai mes billets!
Super.
Moi, j'y vais, c'est sûr.
Donc, on va vous parler de tout ça. Également, il y a le Film Black dans un mois. La programmation n'a pas été encore annoncée pour le Festival du Film Black. Il y a l'affiche qui a été dévoilée, qui est très jolie. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient pour nous. Avant, évidemment, octobre et le FNC.
Il était fermé là-dedans.
C'est ça, justement. Ben, Rémi, tu me coupes l'herbe sous le pied. Je voulais un peu faire un petit retour rapide sur le FFM. Parce que, finalement, j'ai encore travaillé cette année beaucoup, beaucoup, beaucoup au FFM. Notamment parce qu'il n'y a pas grand monde qui souhaite y travailler. Et je voulais un peu vous en parler. Moi, j'ai seulement vu donc le film d'ouverture « Embrasse-moi comme tu m'aimes » d'André Forcier.
Ah ouais.
Donc, je voulais d'abord rapidement vous parler du FFM et ensuite vous parler du film d'ouverture. Donc, vous, les gars, évidemment, vous êtes au courant, mais peut-être que c'est pas tout le monde qui nous suit qui sont au courant. C'est que le FFM, ça va vraiment pas bien, ça se meurt. Cette année, donc, le Cineplex a pas annulé, mais a confirmé qu'il n'y avait pas de contrat de signer cette année pour louer les salles. Donc, à comme 2 jours de l'ouverture du festival, l'équipe restante, les 3-4 employés qui restent au festival, ont dû remanier au complet la sélection et la programmation parce qu'on passait de 8 écrans à 1, celui de l'Impérial. Ce qui a causé, évidemment, du tracas pour tout le monde, donc du tracas pour l'équipe du festival. Les spectateurs qui avaient acheté des billets ou qui consultaient l'ancien horaire, que c'est plus valide. Et puis encore, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Là. Les gens ne suivent pas les nouvelles, puis les pages Facebook, puis tout pour savoir est-ce que l'horaire a changé. Quand c'est annoncé, d'habitude, c'est annoncé. Tu achètes tes billets, puis tu te pointes la journée même, puis that's it. Donc, pour les spectateurs, personne gagne. Pour les équipes de films, ça, c'est le plus grave, selon moi. Il y a des équipes de films. Puis moi, j'ai parlé personnellement à des gens qui sont venus me voir, parce que j'étais là et je travaillais sur place, à la billetterie notamment. Puis tu sais, il y a des gens qui sont venus me voir de Mongolie, du Sénégal, de la Chine. T'sais, j'ai parlé des gens là, qui ont... Tu sais, on parle de billets qui coûtent cher. Là. C'est pas juste j'arrive de Toronto, ça m'a pris comme quelques heures de voiture. C'est comme... On parle de billets, puis d'hôtels, puis tout ça à leurs frais. Parce que finalement, d'habitude, dans un festival, quand on t'invite... Et, dépendamment de la catégorie, mais c'était en compétition, tout ça, on peut payer l'hébergement, il y a des hôtels partenaires, mais cette année, l'hôtel n'est plus partenaire avec le Hyatt parce qu'il y a une dette à payer. Et c'est ça, et tout ça, vraiment, c'est lié à un acharnement de son président fondateur, Serge Zick, qui a 85 ans, qui refuse de passer les rênes et qui affirme sur IndieWire que le festival est là depuis 40 ans, qu'il sera encore là pour un autre 40e, que tous les festivals ont des problèmes et qu'il faut arrêter de s'acharner sur lui. Sauf comment on est, tu sais, si lui a pas des comptes à rendre, qui a des comptes à rendre, tu sais? Donc, bref, je vais pas non plus appuyer nécessairement plus sur le clou tant que ça. Je suis pas mal convaincu que c'est la dernière fois qu'on voit un festival des films du monde à Montréal, sous ce nom-là, sous cette présidence-là. En même temps, ça fait comme 2-3 ans que je me dis que ça peut pas continuer comme ça.
C'est ça. C'est fou, là.
Parce que l'Impérial, ça y appartient. Donc, il peut faire son festival à l'Impérial. Par contre, ce qui est bien la situation, en fait, c'est de voir à quel point des gens de l'industrie et les spectateurs sont vraiment des naturels cinéphiles et bonnes personnes qui sont proposés spontanément. Il y a plein de bénévoles, des gens du public vraiment qui venaient les années dernières juste comme spectateurs, qui nous aident à comme ouvrir les portes, déchirer les billets, donner un peu d'informations aux gens. Notamment le propriétaire du Théâtre Outremont qui a dit « Parfait, on va faire des séances chez nous, il n'y a pas de problème. » Donc, depuis mardi, il y a des séances du Théâtre Outremont. Bon, évidemment, lui, il garde l'argent des billets. Mais reste que, tu sais, comme ça, à la dernière minute, c'est quand même un beau geste. Dans le sens que, quand tu es propriétaire d'une salle, tu t'improvises pas « OK, on fait un truc à soir. » C'est des semaines à l'avance que c'est booké, ces affaires-là. Même chose pour les propriétaires au cinéma du parc qui ont voulu accueillir le matin parce qu'il y avait déjà des trucs de prévu. Mais le matin, ils ont accueilli les séances de films, de courts-métrages étudiants.
Ouais.
Donc, pour moi, en fait, c'est bien d'être témoin de plein d'une multitude de beaux gestes comme ça. C'est comme un peu des fleurs qui poussent dans un désert d'arrogance, puis de mauvaise foi. Puis...
Ben, d'illusion, en fait, c'est ça. C'est un mirage, là, complètement. Je veux dire.
Donc, le festival est dans un triste état. Il n'y a pas de projection extérieure non plus. Il n'y a pas de marché du film. Il n'y a pratiquement pas d'entrevues ou de séances. Il y a des courts Q&A, mais comme on a une seule salle et qu'on passe 7 films par jour, on a vraiment peu de temps entre les séances. Fait qu'on dit aux gens, s'il vous plaît, dépêchez-vous, puis ensuite on passe à un autre film. Puis tous les films jouent seulement une fois. Donc, encore là, certains cinéastes, j'ai parlé des cinéastes iraniens, ils sont vraiment tristes parce qu'ils jouent le dimanche matin à 9h. Ils s'attendent vraiment pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens. Puis, c'est pas une bonne case horaire, mais moi j'ai essayé de leur remonter le moral et de dire vous, votre film joue encore. Dans le sens que c'est sûr que c'est chiant, mais ils sont pas déplacés pour rien. Donc, bref, c'est un fiasco total. J'ai honte en tant qu'employé, en tant que cinéphile et en tant que simple citoyen de Montréal parce que
c'est que
ça représente Montréal.
Exactement, ça représente Montréal. Les dommages collatéraux de tout ça, comme je suis sûr que les autres festivals ils regardent ça puis ils sont pas en train de rire de la déchéance du FFM parce que dans un sens c'est comme t'imagines je veux dire les équipes de films les gens que là tu sais c'est l'image de Montréal globalement puis tu sais c'est que le monde il peut se dire hey, sais, c'est Montréal qui est boboche, là. Tu imagines si le FFM, c'est comme ça, imagine les festivals comme le FNC. Mais tu sais, évidemment, ça, c'est de penser de la mauvaise façon, mais quelqu'un qui le sait pas de l'interne, tu sais, que mettons que le FNC, que Fantasia, que ces festivals-là sont sérieux, sont organisés, puis que tu sais, que c'est de la bombe, ben. C'est ça, c'est le cinéma, la cinéphilie montréalaise, tu sais, qui en prend une claque. Puis ça peut pas être bien, ça peut pas être bien pour la ville, tu sais, c'est globalement là. Puis les cinéastes, bordel, les pauvres équipes, les... C'est pratiquement comme une arnaque en fait, c'est vraiment ça, c'est comme tu payes ton ton inscription en plus, le FFM, tu sais, il charge quand même un bon montant, tu sais, surtout pour les features. Tu sais, tu payes les inscriptions, donne le luxe d'accepter ou refuser. Ensuite, tu sais, là, les gens, ils prennent leur horaire, ils mélangent leurs affaires, ils achètent des billets d'avion, tu bookes ton hôtel, tout ça. T'arrives là, ton film joue plus ou il joue, tu sais, dans des conditions complètement exécrables. Si ça, c'est pas une arnaque, je sais pas qu'est-ce que c'est, il y a pas d'autre mot pour le dire. Ouais. Donc, c'est triste.
Puis en tant que cinéaste, vous savez comment ça marche. Dans le sens que là, si ces gens-là veulent se retourner et dire, bon, mais à la place, peut-être que je pourrais jouer, tu sais, au FNC, au TIFF ou à Venise ou ailleurs, c'est que là, ben, premièrement, les programmations sont déjà choisi. Deuxièmement, ou tu sais, les festivals plus loin dans le temps, comme Sundance ou tout ça, peut-être qu'ils vont dire, ben là, techniquement, ton film a quand même eu lieu au FFM, fait que nous, on accepte juste les premières, tout ça. Donc, c'est ça, c'est. Puis c'est ça, c'est que dans cette situation-là, il n'y a personne qui gagne, là. Sauf peut-être l'ego de Serge Zic, mais. Parce que l'année prochaine, il va encore pouvoir avoir des partenaires, tu sais. Parce que là aussi, il y a encore des commanditaires.
Quand est-ce que ça devient criminel, tu sais, cette arnaque-là, justement? Tu sais, quand est-ce que quelqu'un peut vraiment dire légalement, tu ne peux pas? Parce que, tu sais, ce qui a été fait comme ça, c'est borderline criminel, tu sais, fait que c'est comme...
Ben, pis c'est-tu jamais vu, là, t'sais... n'importe où dans le monde, il y a une cinéaste qui avait fait une lettre ouverte, elle a dit, genre, c'était, genre, cinéaste qui a fait un film, je pense, sur sa tante ou sa grand-mère qui était passée par Auschwitz, pis c'est comme un truc super lourd, pis elle dit qu'elle vient à Montréal présenter son film, pis, genre, sur tous les festivals qu'elle a fait, elle dit, c'est comme, j'ai juste jamais vu ça n'importe où dans le monde.
C'est ça. Ouais, puis déjà, la situation, moi, honnêtement, là, la situation dans laquelle le festival est en ce moment, si c'était, mettons, un festival étudiant à sa première édition, on lèverait un peu le nez, puis on dirait, ouais, tu sais, vous devez manger des croûtes avant de, comme, pouvoir avoir un bon événement. Mais le 40e, la 40e édition d'un festival, entre guillemets, majeur, là, pour moi, c'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma, tu sais. Je connais pas une seule autre instance d'un festival en dehors de, tu sais, des événements hors du contrôle, exemple, tu sais, mai 68 à Cannes ou des trucs comme ça, tu sais. Mais pour la simple malorganisation et, tu sais, défaut de paiement de ses propres employés, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du cinéma. Donc, si ça existe, tu sais, envoyez-nous les exemples. Là. Mais non, donc, c'est vraiment particulier cette année.
Bon, ben, le berger du cinéma, c'est peut-être égaré pour de bon.
mais dans tout ça, tu sais, malgré tout, je veux dire, il y a les films qui sont là. Il y a un public de fidèles. Puis, cette année, j'ai comme l'impression, j'ai pas les chiffres, mais j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être plus de monde qui viennent à l'Impérial que l'année dernière. Notamment parce qu'il y a juste une salle, tu sais, bon, maintenant il y a Outremont qui s'est ajouté. Mais il y a comme beaucoup de jeunes aussi qui viennent. J'ai l'impression qu'il y a comme eu, tu sais, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en, là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite curiosité de plein de gens qui étaient peut-être pas au courant que la FFM existait. Ouais. Parce que, tu sais, surtout cette année, la communication et la publicité a été très, très... réduite pour ne pas dire inexistante. Là.
Mais en même temps, IndieWire parle du festival. T'sais. Fait que comme tu dis, parlez-en bien, en mal, mais parlez-en, ben c'est ça.
Ouf, aïe, aïe.
Mais tu sais, honnêtement, ça, il y a des films qui jouent, puis moi, j'ai pas vraiment eu la chance d'écouter plusieurs films, j'ai seulement vu le film d'ouverture, mais tu sais, notamment là, la version restaurée de Casaba, le premier film de Nouribil Challenge, j'aurais vraiment aimé savoir ça. Il y avait tout un pan, en fait, du festival, c'était comme une rétrospective du cinéma turc. Dans des belles éditions DCP, des éditions restaurées. Puis moi, c'est quelque chose que je connais quand même très peu, le cinéma turc. J'aurais été vraiment curieux, justement, d'en voir beaucoup. Malheureusement, de ce lot-là, il y en a plusieurs qui ont été annulés. Mais bon. Le film d'ouverture, donc, le dernier film d'André Forcier, Embrasse-moi comme tu m'aimes.
Dis-moi donc, ouais.
Qui met en vedette, donc, la moitié du catalogue UDA.
C'est ça que tu disais.
André Forcier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça, c'est vraiment comme un vieux routier de notre cinéma, tu sais, c'est un de nos cinéastes, tu sais, qui a tracé plusieurs décennies, puis qui fait quasiment figure maintenant de grand-père, là, dans le paysage, tu sais, de notre cinéma, ceux qui font des films régulièrement. Il y a vraiment son cinéma qui est tout à fait singulier, tout à fait particulier, et ça, je pense que c'est sa plus grande force, d'avoir développé, tu sais, au fil des films, une œuvre cohérente dans sa folie un peu, dans sa fabulation. C'est quelqu'un qui va souvent... Tu sais, c'est pas inédit, là. C'est pas comme ultra novateur, mais il le fait très bien, de mélanger des thématiques très lourdes et des sujets très tabous avec une touche de féerie et de poésie, tu sais. Donc, c'est un peu genre Amélie Poulain au pays de l'inceste, là.
Puis juste pour le mettre aussi un peu en contexte, je veux dire, mettons là, Le Show de l'Aufrette en 76, là, qui est peut-être considéré comme son premier grand film, mais tu sais, je veux dire, c'était un moment où le cinéma québécois était complètement le nez collé dans le cinéma vérité. C'était assez rare, finalement, ce genre de magie-là. Tu sais, on peut comparer peut-être une inspiration possible carrément Fellini, tu sais, je veux dire, mais dans un contexte quand même tout le temps très québécois, puis c'est pour ça. Un peu, c'est pour ça que je pense que c'est une bête, c'est un peu une bête sacrée, surtout plus à une époque que maintenant. J'ai l'impression que oui, effectivement, il a perdu des plumes, puis que peut-être les jeunes cinéphiles le connaissent moins que d'autres. Je veux dire, il y a des. Comme, on va toujours avoir un peu Mon Oncle Antoine ou Les Ordres ou Pour la Suite du Monde, toujours dans le radar des grands films québécois un peu, puis des, si t'es un cinéphile québécois, ben tu vas un peu. T'as un peu pas le choix d'attraper ceux-là. Je pense pas que André Forcier est nécessairement là, mais c'est une bête très intéressante qui est arrivée, qui a proliféré des œuvres singulières. Mais pour ça, je suis super curieux. Côteau Rouge, j'en avais surpris à quel point il y avait des trucs intéressants, mais au final, il y avait des trucs très sloppy, là, désolé l'anglicisme, mais tu sais, il y avait vraiment comme des fois même quasiment des problèmes.
C'est inégal.
Très inégal. Tu sais, des fois, carrément des problèmes de son que tu te dis pourquoi ils n'ont pas réenregistré telle chose. Tu sais, c'est comme d'un côté, un genre d'amateurisme, pas amateurisme, mais comme un laisser-aller, là, tu sais, vraiment une nonchalance qui fait que clairement.
Un manque de moyens, peut-être,
mais tu sais, là où un cinéaste peut-être plus fougueux, plus jeune, tu sais, avec un feu sacré, aurait caché ce manque de moyens-là, j'aurais l'impression que dans Coteau Rouge, c'était évident, les scènes qui marchaient moins, mais il y avait, tu sais, des bons petits trucs. Mais ouais, c'est pour ça que je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que tu as pensé.
Ben, écoute, à t'entendre parler, on aurait pu quand même inverser les titres Coteau Rouge et Embrassement comme tu m'aimes, c'est un film qui est très inégal. Juste avant de continuer, son autre grande force selon moi, au-delà de sa singularité, c'est vraiment qu'il essaie de créer un projet qui s'inscrit complètement dans le Québec. T'sais, pour lui, c'est un cinéaste québécois qui fait des films québécois et à force de comme toujours mettre les références et dans sa forme et dans son contenu, c'est que ça fait un film. Il est quasiment après créer pour nous un souvenir du Québec, tu sais, dans le sens qu'il va forger notre propre opinion de ce qu'est le Québec par la force et le nombre de ses films et leur constante inscription dans l'histoire du Québec. Dans ce cas-ci, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale et là, bon, c'est une multitude de personnages, mais il y a principalement un jeune homme avec sa sœur qui ne peut pas se servir de ses jambes. Leur mère, donc, a un espèce de petit magasin. Elle est modiste. Elle fait des chapeaux très élégants. Donc, sa sœur est plus ou moins clouée à la maison. Elle aspire à l'amour, mais elle ne le trouvera jamais. Et sa seule force de réconfort, c'est un peu son frère. Donc, ils ont une relation incestueuse, assez suggérée par moments. D'autres fois, c'est plus subtil. Et puis lui, son frère, évidemment, bon, il doit s'occuper de sa sœur, mais il souhaite secrètement ou quand même assez publiquement se porter volontaire pour aller à la guerre. Donc ça, c'est pas mal la trame principale. Et il y a plusieurs personnages qui gravitent autour. C'est plus comme une espèce d'étude fabulée d'une certaine époque de notre histoire. Et il y a plein de petits... C'est ça, un peu comme un roman ou comme une chronique d'un quartier, quelque chose que Michel Tremblay pourrait faire ou des créateurs comme ça. Et même par son casting, c'est carrément... Il est en train de s'inscrire dans l'histoire du cinéma québécois. T'sais, t'as justement Denis Arcand qui est là juste pour 2 minutes. C'est un professeur dans une université qui est juste là pour dire « Bonjour, je m'appelle Édouard Montpetit, j'enseigne l'économie, etc. » Puis là, ben, ce petit rire dans la salle parce que là, maintenant, on connaît, tu sais, Édouard Montpetit, c'est comme un nom de rue ou peu importe, tu sais, qui a donné son nom, tu sais. Donc, on revisite un peu les personnages de l'époque. Il y a une des personnages qui travaille donc au magasin Dupré et Fils, qui est inspiré des anciens magasins canado-français d'ici, tu sais, qui concurrençait la baie, tout ça, qui maintenant n'existe plus. Puis tu sais, c'est le genre de phrase. Elle, dans le fond, elle travaille à l'ascenseur, donc elle est préposée à monter et descendre les gens. Puis elle a souvent une phrase type de magasin, c'est comme « Dupré et fils, fier magasin pour défendre notre grande race ». Donc on comprend que tout ce côté-là un peu très patriotique, qui forcément détonne avec le climat de nos jours. Mais c'est traité avec beaucoup de nostalgie puis beaucoup de charme, en fait. On sent qu'André Forcier aime cet univers-là. Puis c'est une manière un peu de parler aussi de où est rendu le monde de nos jours. Donc, c'est un univers très inégal. Il y a des bonnes scènes. Ben, c'est même pas des scènes, en fait. Je trouve qu'il y a des bons détails dans le film. Globalement, c'est assez mou. On sent aussi peut-être un manque soit d'ambition, soit de budget, mais on sent qu'on réutilise souvent les mêmes scènes, les mêmes décors. Notamment, il y a une espèce de scène de rêve qui revient souvent, où le frère et la sœur, les principaux les enfants, vont danser ensemble. Parce que là, puis là, c'est comme une espèce d'éclairage féerique avec des spots qui sont comme un peu comme des étoiles. Dans un vieux bar où on fume, puis une petite musique jazz, mais c'est comme cette scène-là revient comme plusieurs fois, les scènes de rêve éveillées. Puis à un moment donné, c'est, tu dis, ben, on sent un peu comme, ah ben, il n'y avait pas d'autre choix que de retourner à ce studio-là parce qu'il n'y a peut-être pas d'argent pour se payer autre chose. Donc le film est assez limité dans son ambition. L'écriture est pas toujours juste et surtout les personnages sont vraiment. Ben, les acteurs en fait sont vraiment pas tous aussi bons l'un que l'autre. Par exemple, Roy Dupuis, qui joue un père alcoolique qui va violer une de ses filles, lui, il est très bon dans son rôle. C'est un personnage, c'est un acteur qui est très intense. Puis, là, il aime ça, travailler avec Forcier, il se donne à fond, ça marche bien. Mais un autre, Paul Doucet, qui joue dans le fond le fils du propriétaire de Dupré et fils, lui, il est tellement nul dans son rôle, il est figé. On comprend même pas pourquoi ça a été gardé au montage, ou peut-être que c'est voulu que ce soit une espèce de jeu, tu sais, où il fait juste comme fixer l'actrice sans cligner les yeux puis ni bouger le visage du tout, là. Puis genre rester ses lignes sur le même ton, c'est peut-être un effet voulu de distanciation ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai pas compris, mais au final, c'est ça, on se dit, tous les éléments du film sont assez inégaux, tu sais. Là où telle scène est très belle puis la caméra est très impressionnante, ben telle autre scène, ça fait un peu cheap. Puis il y a des espèces d'effets de post-production, notamment pour les scènes de rêve, qui font très, tu sais, film étudiant, film pas trop de budget. Donc, c'est ça, en fait, c'est un film très inégal, mais qui brille, en fait, par sa singularité. Donc, c'est ça, sa principale force.
Puis la musique de Martin Léon, est-ce qu'elle t'a marqué?
Pas du tout.
Non,
c'était bien pour ce que c'était, mais, tu sais, ça, je suis pas ressorti de là avec une forte impression. Tu sais, c'est plutôt comme, ah, tel truc, c'était rigolo, ou ah, tel plan, c'était bien, ou... Mais, tu sais, c'est assez mitigé.
Ça me rappelle Côte Rouge, là. Mm-hmm. C'est un peu ça, là. Genre, pour vrai, on l'a vu ensemble il y a, quoi, 3-4 ans, un truc comme ça.
Ouais.
Puis j'ai comme... J'ai vraiment pas de souvenir de l'histoire comme telle. J'ai plus un feeling, des moments qui sont... Que je me souviens, mais j'ai pas de... Je peux même pas te raconter de quoi ça parle, Côte Rouge, mm-hmm. là. Sinon, mais c'est j'ai l'impression que tu es en train de raconter exactement ça. Là.
Mais il y a le mérite au moins de faire son propre cinéma. Donc, nouveau film d'André Forcier qui prend l'affiche très bientôt, la semaine prochaine, je pense. Sinon, Pascal, moi, je suis très curieux de t'entendre sur un documentaire politique, Wiener, qui vient de sortir.
Ouais, ben un poids lourd de la course documentaire aux Oscars, peut-être cette année. Okay. Un film profondément... Ouais, tu sais, ben, les critiques sont très bonnes. C'est un film qui brasse, puis c'est un film qui est ben, vraiment contemporain. Puis on n'a pas fini, là, la présidentielle, ça se termine en novembre, donc aux environs de la fin d'année. Puis j'ai l'impression que Wiener, et en plus, l'histoire d'Anthony Wiener, je vais y venir, mais elle perdure hein, jusque dans les médias aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça qui va faire en sorte que, bon, le film existe, est un peu une bulle, une bibitte, mais finalement, c'est pas le. C'est pas, mettons, un film biographique quand la personne vient de décéder où tu peux faire quelque chose d'un peu anthologique. Ouais. Là, on est vraiment history in the making, mais pas de la même façon que, mettons, Laura Poitras s'y prend pour faire un Citizen Four, par exemple. Okay. En tout cas, j'y viens.
Parce que nous, au Québec, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup entendu parler des scandales entourant cet homme. Mais peut-être que tu peux nous faire un petit résumé vite fait.
Ben en fait, je crois à raison, et c'est peut-être une bonne chose, parce que finalement, c'est quoi qui s'est passé avec Anthony Wiener? Le personnage, donc, c'est un politicien fougueux, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui peut même tomber sur les nerfs, là, je pense notamment, je l'ai regardé avec ma blonde, puis ma blonde n'est pas capable. Genre, une antipathie, tu sais, comme moi, Philippe Couillard me fait ça, là, dès qu'il parle, je fais comme, t'as l'impression que le poil se dresse, je suis pas capable, j'haïs, je le déteste, tu sais. Bon, c'est une façon peut-être politique de tout tourner, puis je sais pas. Bon, Anthony Wiener, c'est ça. Mais comme je dis, il est quand même sauvé, puis c'est un sujet de film fascinant parce qu'il a vraiment un franc-parler, puis il se laisse pas jamais marcher sur les pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, il s'est retiré de la vie publique lorsque des photos de... Il avait envoyé sur Twitter, en fait, à des gens, là. Mais il avait mis des photos... En fait, c'était même pas si explicite que ça, là. C'était comme genre lui en érection en dessous de ses boxeurs, là. Mais on voyait pas, là. On voyait juste comme ses boxeurs, comme la forme en dessous des boxeurs.
C'est quand même explicite,
mais...
là.
Non, c'est quand même explicite. Mais
puis quand t'es un politicien,
là...
t'sais,
mais non, mais t'sais, mais là, les juges de la morale américaine, le puritanisme américain étant ce qu'il est, le feu a pris au poudre, il a été obligé de carrément se retirer de la vie politique.
Parce que lui, son but, c'était pas d'envoyer ça sur Twitter publiquement. En fait, lui, son but, il voulait l'envoyer en message privé.
Probablement. En fait, c'est flou, ça. C'est comme. Le film le prend comme si il prenait pour acquis que tout le monde savait ce qui s'était passé, comme jadis. Là, le film reprend ce personnage-là lors où il veut un peu regagner ses lettres de noblesse et replonge dans l'arène politique 2 ans plus tard. Il se dit « La poussière est tombée ». Il fait plein d'entrevues, dire « J'ai changé », des photos de lui avec sa femme, son enfant en très bas âge, tout ça. Donc, tu sais, le American Dad qui expie ses péchés et tout. Mm-hmm. Et puis là, c'est pas trop long dans le film que des nouvelles photos refont surface. Et puis là, c'est la descente aux enfers. Donc, les nouvelles photos, ben, encore plus explicites cette fois-ci. Puis là, t'as vraiment le dessous d'un scandale. Parce que là, t'as toute son équipe. Lui, il était premier dans les sondages pour devenir maire de New York. Donc, c'est vraiment pas rien. Là. C'était une figure politique très importante à un certain moment dans la course. Et puis là, peut-être un mois et demi avant l'élection pour devenir maire, ces nouvelles allégations-là sortent. Et puis là, c'est vraiment drôle. T'as comme des meetings d'urgence, pis genre, bon, c'est quoi notre stratégie? Est-ce qu'on dit que c'est un mensonge, pis on dément ça à bloc? Ou, pis là, tu vois, comme là, ils brainstorm, pis là, éventuellement, en stratégie, c'est comme, non, on va miser sur les gens le savaient, c'est des vieilles photos, pis c'est comme, c'est rien de nouveau sous le soleil, pis on essaye d'étouffer ça. OK. Mais là, tu vois à quel point l'acharnement médiatique fait en sorte que Anthony Weiner, il est constamment sous l'œil public. Il essaie de promouvoir ses plateformes politiques. Il est constamment ramené à ce scandale-là. Tu sais, c'est la victoire du sensationnalisme, là. Et puis, c'est un film enrageant, mon gars. C'est comme, tu vois ce film-là, tu vois cet homme-là qui est loin d'être un saint, parce que, puis tu sais, lui-même l'admet tout le temps, il dit, tu sais, en fait, il a entretenu une relation secrète avec une femme, tu sais, en ligne. Et puis là, la femme, elle a carrément vendu ça au plus offrant, tu sais, puis elle a mis les photos publiques pour carrément, tu sais, c'est du salissage, là, tu sais, par une... Puis même ce personnage-là, je veux dire, c'est une vampe à l'ère 2.0, là, c'est vraiment un personnage, mon Dieu, mais... J'oserais quasiment dire un parasite, là, tu sais, des gens qui, finalement, en font d'un scan, tu sais, qui, pour un 15 minutes de gloire, vont défaire complètement la vie de quelqu'un. Je dis pas que la personne...
Au plutôt pour de l'argent sonnant, là.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, mais en même temps, le film propose quand même un portrait très ambigu, parce que le gars a quand même fait, et puis lui-même le dit tout le temps, il dit « j'ai fait ce que j'ai fait, et je m'en excuse, si vous jugez que c'est un crime, parce que finalement c'est sa vie privée, si vous jugez que c'est un crime et que vous voulez pas voter pour moi, je comprends ça, mais là, il essaie tout le temps de ramener constamment son discours politique, mais il est complètement ravalé par le siphon d'ignorance, le siphon de sensationnalisme à deux scènes, puis c'est ça fait juste miroiter comme... Tout ce qui va mal, j'ai l'impression, avec les médias, le coverage politique médiatique aux États-Unis, ce film-là l'expose très bien à travers la frustration de cet homme-là, qui est une descente aux enfers, le film.
Mais le documentaire va au-delà de l'outil promotionnel, genre le comeback d'un politicien. Là.
Oui, parce que finalement, c'est pas une promotion du tout, c'est pas un film du tout qui est flatteur. L'approche du documentaire est très... c'est fly on the wall, là. Il y a pas... ou très peu là, d'interactions entre la caméra et lui. Tu sais, Mané, par exemple, il va garder au montage un moment où il est là avec sa femme. Clairement, tu vois qu'il veut être en privé avec sa femme. Puis là, il y a un long silence, puis là, il va s'adresser à la caméra pour dire « Tu sais, est-ce que tu peux t'en aller? » Puis là, la caméra, tu sais, le gars, il court comme pour lui donner un peu de vie privée. Mais ce qui est curieux, c'est que je pense pas que les documentaristes ont exploité la descente aux enfers d'Anthony Weiner parce que c'est un homme extrêmement narcissique. Puis t'as l'impression qu'il a quasiment... Il retrouve un réconfort avec l'équipe de caméra qui est là. Puis qui, à la limite, l'épaule à travers tous ses déboires. Puis c'est vraiment une relation twisted, là, sujet documentariste, mais qui mérite qu'on s'y attarde parce que je pense que l'éthique du documentariste est pas remis en doute. En tout cas, faut vraiment le voir pour le croire. Puis juste, je vais vous dire juste quand même une chose qui est importante à savoir, c'est comme vers la fin du film, quand il est rock bottom complètement, notre Wiener, le documentariste va complètement lui demander, puis ça sort ça tombe des nues complètement parce que, tu sais, il parle pas du film. Puis là, Mané, le Josh là, en question, le gars derrière la caméra, il dit: Pourquoi tu m'as laissé filmer ça? Puis là, Tony Wiener, il regarde la cam, puis il lève les épaules en voulant dire: Mais. Tu sais, il y a vraiment un rapport comme vraiment particulier.
Peut-être qu'il y a des fois aussi, il oublie qu'il y a une caméra. Peut-être que des fois, il est tellement concentré par ce qui se passe autour de lui que.
Non, il performe, je sais pas. C'est comme. Là où les médias l'avalent, il a besoin des médias pour vivre. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Ouais. C'est comme si il devient un monstre qui ne peut exister que devant des caméras. Donc, c'est tellement intéressant, le rapport extrêmement ambigu que cet homme-là a par rapport à sa propre image. Je l'ai utilisé le mot, c'est du narcissisme, mais il trouve un certain réconfort. Je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment un film extrêmement contemporain, extrêmement pertinent, vraiment enrageant pour toutes sortes de raisons. Je veux dire, lui, c'est un personnage problématique. Sa femme, par la force des choses, devient un personnage un peu problématique par son immobilisme. Mais encore là, elle a plein de dignité. C'est un personnage quand même fascinant. La fille qui l'expose est un personnage beaucoup très, très problématique. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est les médias, c'est l'exploitation de la déchéance humaine. C'est comment finalement t'exploites quelqu'un qui est au bord de la crise de nerfs, puis t'attends juste qu'il pète sa coche pour après ça le mettre sur Internet, le filmer, le mettre aux nouvelles. C'est même pas sur Internet, c'est aux nouvelles. C'est CNN, c'est les grands réseaux de nouvelles. C'est Don de la Nouvelle qui pète sa coche, tu sais, dans un café parce qu'un homme va insulter sa femme qui est arabe. Puis là, il pète sa coche. Puis là, t'as juste une moitié d'histoire qui va à CNN. Puis les faux experts qui se proposent, tu sais, qui commencent à dire. Je veux dire, c'est tellement. Vois-tu, j'en parle vraiment passionnément. Ça met le doigt sur le piton, là. Ça met le doigt sur le bobo.
Le titre, il est drôle en plus. T'sais, tantôt, t'as dit, je vais parler de Wiener, puis comment, un film sur les pénis.
Ben,
mais c'est comme son nom, il fit vraiment avec le... c'est malade parce qu'il y a un double sens direct avec son nom de famille.
Ça, c'est l'ironie complète de tout le film.
C'est malade.
T'as même plein. Le film aussi, il y a beaucoup de. Ils ont dû payer des droits en fou pour ça, mais tu sais, il y a beaucoup de scènes de nouvelles, tu sais, ils ont pris beaucoup d'archives, tu sais. Ça fait drôle parce que archives, ça a une connotation tout le temps un peu, tu sais, du passé, mais tu sais, c'est des archives qui sont très, très, très contemporaines, mais tu sais, puis t'as par exemple, tu sais, toutes les late show hosts, là, qui font.
Ils font parce des que lui, sur son ça, site.
Ouais, qui font des blagues avec ça, évidemment. Puis, tu sais, lui, en plus, son pseudonyme, quand il entretenait cette espèce de relation-là, cette espèce de sexting-là avec cette femme-là, c'était Carlos Danger. Puis, évidemment, qui se fait rire de lui, puis qui se fait humilier aussi par rapport à ça. Puis tu sais, un peu comme un Émile faisait, mais avec beaucoup, peut-être plus d'humour, j'ai l'impression, dans Wiener. Mais, tu sais, ça expose beaucoup une genre d'hypocrisie de masse de comment on croit savoir alors qu'on a tellement des dés pipés, tu sais. Puis surtout quand ça deal de sexualité, puis de déviance, là, je mets des gros guillemets là-dessus, parce que finalement, la seule vraie déviance de cet homme-là, c'est d'avoir trahi la confiance de sa femme. En tout cas, ça, c'est mon humble point de vue. Je veux dire, il y a des gens qui vont s'offusquer peut-être plus, mais tu sais, mais du fait que c'est une figure publique, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais c'est vraiment un film. Disons que je le conseille. Faut le voir pour le croire.
Ouais. Donc, comme quoi, il peut y avoir des scandales qui arrivent quand on expose Wiener en public.
Bravo, belle conclusion.
Et Rémi, finalement, je voulais t'entendre rapidement. T'as vu un certain film qui a fait fâcher bien des gens avant même qu'il existe. Le remake, donc, de Ghostbusters par Paul Feig.
Oh my god.
Hey, le pire, c'est que j'en aurais parlé au dernier épisode, puis ça aurait été pire. C'est juste que j'ai vu Suicide Squad depuis, puis je me dis, finalement, c'était pas si mal. Ça a tellement. Genre, je suis sorti de Ghostbusters complètement. Whatever, là, genre, j'ai vraiment pas trippé. Puis après ça, j'ai vu Suicide Squad, puis c'est tellement un rock bottom, c'est tellement un désastre que
Ah ouais, tant que
c'est
ça.
deux univers, là, complètement, là.
Ça n'a pas été un bon été hein, pour le cinéma américain.
Hey, non, vraiment, vraiment pas. Puis c'est ça, des gros blockbusters qui se plantent, puis, tu sais, puis, tu sais, ils l'ont annoncé, là, probablement qu'il n'y aura pas de suite à Ghostbusters parce qu'ils n'ont justement pas fait l'argent qu'ils espéraient, là. Ils ont fait des millions et des millions, mais ils n'ont pas. Je pense qu'il faut qu'ils doublent le budget. Il faut qu'ils doublent les gains, en fait, par rapport au budget. Mais écoutez, je suis allé voir ça à New York. C'était le trip d'aller voir un film à New York. On s'est dit, on va aller voir un gros film. Le film était déjà dans une petite salle, fait que finalement, c'était pas si hot d'aller au cinéma à New
Ça
York.
revient cher, hein, juste pour écouter Ghostbusters à la New York.
Ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est vraiment juste quelconque, là. C'est pas un film genre
En
horrible.
plus, l'ironie, c'est que celui-là, ils l'ont pas tourné à New York, justement.
Non, puis c'est un film très new-yorkais, par
Ouais.
contre, là. C'est vraiment, ça se passe à New York. En gros, c'est comme. Bon, je sais pas s'il faut que je résume c'est quoi Ghostbusters, là. C'est une team qui se met ensemble pour chasser des fantômes.
Nice.
Ouais,
Spoilers!
spoiler, c'est pas mal le résumé le plus quick que je peux vous faire. Bon, je vais commencer par le positif. Le positif, c'est les quatre comédiennes qui sont vraiment bien castées, puis qui sont vraiment très très bonnes. Puis, tu sais, là, il y a eu tellement de débats avant même que le film sorte de ça va être poche, ça va être bon. Là, c'est parce que. Tu sais, j'ai regardé, il y a une review du Nostalgia Critic là, qui fait des reviews exhaustives de films sur YouTube. Puis il a vraiment mis le doigt sur le problème. C'est que là, t'avais un clan qui disait, tu sais, en fait, c'est que si tu dis que ça va être pas bon, c'est que t'es anti-féministe. Si tu dis que c'est bon, c'est que là, tu craches sur l'original. Mais il y a comme, faut oublier un peu ces clans-là. Puis tu sais, je suis allé en me disant, je vais regarder un nouveau film. Je vais essayer de me détacher le plus possible de l'original. Puis vraiment, ce qui marche de base, les premières scènes, ça fonctionne, c'est le casting. Donc, t'as vraiment la gang de Paul Feig, là, les comédiennes avec qui il travaille d'habitude, qui shine. C'est un beau quatuor, ils sont drôles, là, le timing comique est là, ça marche super bien. Où ça dérape, c'est quand ça essaye trop de ressembler à l'original, en fait. C'est que tant qu'elle essaie de se dissocier de l'autre film, puis de vraiment remaker, de repartir l'histoire à zéro, arrêtez de nous rappeler qu'il y a l'ancien film. Le film, tout le long, il y a des références, il y a les caméos, il y a le. C'est, ils te le mettent là, dans la face, il y a tous les acteurs, presque tous les acteurs, en fait, de l'original qui apparaissent dans le film. C'est tout le temps, tu sais, mettons, il va être de dos, puis là, il se retourne vers la caméra pour dire sa réplique, pour faire comme, oh, avez-vous vu, c'est Bill Murray, oh, c'est Dan Aykroyd. Puis les caméos sont placés, là, mais juste pour comme, il essaie de plaire aux fans, mais en même temps, il nous en donne pas assez. C'est tous des rôles complètement inutiles.
C'est vraiment une tendance
Donc ça,
lourde
c'est
hein,
la.
dans le cinéma américain, cette espèce de d'appel à la nostalgie. Puis là, j'ai pas vu Ghostbusters, mais sans me dire que c'est comme qu'il fait pas d'une bonne façon. T'sais, plusieurs personnes trouvaient que le nouveau Star Wars le faisait d'une bonne façon, mais mine de
Ah moi
rien,
j'ai
je trouve.
aimé ça dans le nouveau Star Wars en
Ouais,
fait.
mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent, puis je suis pas sûr que c'est une bonne chose qu'on ait autant de. Parce que déjà que t'as un remake, c'est déjà un appel à la nostalgie. Tu sais, ta job marketing est déjà faite quand ton film s'appelle Ghostbusters. Fait que t'as-tu en
Ouais,
plus
c'est ça.
besoin d'imprégner ton histoire d'autant de caméos puis de throwbacks? Tu sais, je sais pas.
Ben, c'est que tu veux ramener ces comédiens-là, fais au moins la passation, comme un peu justement Star Wars l'ont bien fait,
Ouais.
c'est que tu passes les rênes au prochain. Puis tu sais, ramène les personnages rendus là. C'est juste que là, c'est vraiment, ils pluguent les comédiens pour pluguer des comédiens. Genre, Sigourney Weaver, elle a une scène de générique. Genre, dans les génériques,
Ah ouais.
ils arrêtent pas, là. Ils ont mis genre une bunch de scènes qui a été coupée du film là, sur une toune exécrable, un remake exécrable de la toune originale. Puis t'as des petites scènes, puis t'as genre Sigourney Weaver qui a une petite scène dans les génériques de fin. Puis c'est comme, tu sais, rendu là, mets-le juste pas là. Ah, puis dans les génériques de fin, attends, ça, c'est. Je sais pas si c'est des spoilers, là, mais on s'en fout un peu, là, je pense, rendu là. Mais il y a une scène à travers le film où, bon, t'as le personnage de Thor, là, comment il s'appelle, non, ce gars-là? Chris Hemsworth, c'est ça. Il y a une scène où il se met à danser un peu avec des policiers, vraiment comme Cuban Pete dans Le Masque, là. Puis là, ça coupe super short. Puis là, tu fais comme, hey, phew, ça aurait réussi, il allait partir dans un numéro musical, là, ça aurait encore plus dérapé. Puis là, t'arrives dans le générique, puis ils mettent comme des extraits de cette scène-là. Fait que c'est. Clairement, ils l'ont tourné, puis ils se rendaient compte que c'était une catastrophe. Fait que ils l'ont shooté dans le générique, là. Les génériques sont. Ça fait mal, là, de voir tout ce stock-là qui aurait juste dû pas mettre pantoute puis mettre sur le Blu-ray là, caché dans le fin fond d'un menu de deleted scenes. Là. Mais en gros, ça c'est le premier problème là, c'est d'essayer de plugger genre le plus possible de références aux originaux. Tu sais, c'est ça. Là, t'as Dan Aykroyd qui joue un chauffeur de taxi qui fait juste pas les prendre en charge puis il dit I ain't not afraid of no ghost, la ligne classique de l'original. Puis il s'en va. Puis c'est comme ça sert absolument à rien. Puis dans les autres problèmes, il y a le méchant qui est sous-développé. C'est un gars qui est frustré contre le monde puis qu'il veut libérer des fantômes pour whatever reason. C'est vraiment dommage, en fait. Là, mettons Ghostbusters 2, c'est vraiment pas un bon film. Mais au moins, le méchant, il est cool. Là, c'est la peinture de Viggo qui prend possession du monde. Là, vraiment, c'est complètement raté, quelconque. Puis les fantômes qu'il libère, en fait, ils sont tous pareils. Ça a l'air d'être des fantômes tirés de Scooby-Doo, là. Tu sais, le Scooby-Doo des années 2000, là, avec Sarah Michelle Gellar. Ça ressemble à ça, là. C'est comme des squelettes lumineux, verts puis roses. Puis y a comme pas de personnalité dans les designs graphiques. C'est juste... C'est un peu quelconque. Puis dernier problème, c'est que c'est les scènes d'action, en fait, du film... c'est surtout la finale là, ça a l'air d'un reshoot studio, ce qui a été beaucoup traité en fait récemment, avec Suicide Squad aussi, avec le nouveau Star Wars, le Rogue Squadron, je pense que ça s'appelle,
ou Rogue One,
c'est ça. Donc on parle beaucoup des reshoots, puis la fin de Ghostbusters, ça a l'air d'un gros reshoot parce que c'est vraiment les filles, ils ont leurs armes puis ils shootent genre sur du green screen dans un no man's land, ils sont à New York mais tu vois juste du brouillard autour d'eux. Puis ils shootent dans le vide, puis là, il y a comme des fantômes en CGI qui éclatent.
Oh,
c'est vraiment chaotique, là, genre, tu sais pas en tout ce qui se passe, là. Pis c'est dommage, parce que, tu sais, toutes les scènes de comédie, ben, il y a beaucoup de scènes de comédie qui sont pas mal, qui fonctionnent. Souvent, ça s'étire un peu trop, là, tu sais, ils vont avoir un seul gag qui va se répéter, puis c'est comme coupé juste un peu avant, puis ça va être drôle, là. Mais au final, tu sais, quand ils essaient de faire des scènes d'action... C'est vraiment raté, c'est vraiment essayer de faire du gros Hollywood, là, du gros spectacle. Puis quand on pense à Ghostbusters original, bon, on veut pas trop comparer, mais quand on pense à l'original Ghostbusters, il y a aucune scène d'action, tu sais. Les gars, ils pointent leur truc puis ils tirent puis that's it. Il y a pas d'action comme telle, c'est juste des one-liners puis la chasse aux fantômes, c'est pas des scènes d'action. Fait que tu sais, il y a comme tous ces problèmes là qui font que ça devient un film vraiment boiteux qui est quelconque, là, il n'y a pas trop d'intérêt à voir ça.
Puis selon moi, c'est que, tu sais, parmi tous les remakes que tu peux faire, j'ai l'impression que le Ghostbusters original, c'est un peu ce genre de film, tu sais, que, tu sais, on dit l'expression en anglais lightning strikes in a bottle, là, comme, quelque chose qui peut juste arriver une fois, puis que, tu sais, pour X raison, ben, ce film-là, ça marchait tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas comme le genre de film que tu peux vraiment recréer, tu sais, c'est comme, je sais pas, pour moi, c'est comme un one-time, là, tu sais, puis même la suite, tu sais, je trouve qu'elle est un peu inutile, c'est un peu de la redite, mais ça, il y a des films comme ça que ça vient pas s'inscrire dans des codes particuliers, c'est vraiment un film unique, que tu dis, bon, ben, on l'a fait, tu sais, ça peut à rien de jamais, comme, réessayer de faire un autre Ghostbusters, selon moi.
Tu dis que le casting original, le réalisateur original ont essayé de faire une suite... Puis ils ont même pas réussi à reproduire la chimie puis la vibe de l'original. C'est comme rendu là, c'est plus la même chose là. Puis tu sais, c'est ça là, ça aurait pu être pas mal en fait, ça aurait pu être meilleur que ce que c'est. C'est juste que ils essayent tellement d'être entre faire plaisir aux fans puis faire un nouveau truc que ça se perd trop dans le milieu là, ça devient un no man's land de comédie là, c'est vraiment dommage là. Puis dernier point, ben c'est ça, Chris Hemsworth en fait qui fait leur secrétaire qui remplace Janine. Tu sais, puis là on parle de misogynie, je sais pas trop là, parce que l'original c'était juste des mecs, ouais. Mais Janine, le seul love interest il arrive dans le 2, puis c'est avec le personnage de Rick Moranis, mais Janine ça a jamais été de l'hypersexualisation. Mais là Chris Hemsworth, le gag ce qu'ils veulent faire, c'est comme ah ben tu sais, il y a toujours la pitoune dans les films d'action américains. Ouais. Fait que là, Chris Hemsworth, c'est un peu la chicks du film, ouais. Tu sais. Puis là, ben les filles font des blagues. Ben, c'est ça, c'est drôle, mais c'est que finalement, il est comme trop idiot, tu sais. C'est vraiment trop, trop dumb, là, tu sais. Ils ont essayé de le montrer que, bon, t'as le double standard là-dessus, mais il est trop idiot, tu sais. Il aurait été drôle avec quelques gags, mais là, à un moment donné, là, il pousse tellement loin que le personnage, finalement, il est même plus... Tu sais, c'est un gros cartoon qui sert à rien,
c'est
là.
C'est une idée, là.
Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est un, un two thumbs down là. Okay. Ben, c'est comme, en fait, c'est juste quelconque là. Ça sert à rien comme la plupart des films. Mais tu sais, Suicide Squad, c'est bien pire. Là. Ça c'est comme, ça c'est un train
wreck. Still better than Suicide Squad.
Oh my god. Puis moi, j'ai pas vu les Batman contre Superman. J'ai pas vu Superman Man of Steel. Fait que j'ai comme, j'ai plongé dans les nouveaux DC avec celui-là. Puis c'est aïe, aïe, c'est comme tu m'as dit, soundtrack, t'avais highlighté ça là, au dernier podcast, là, puis c'est vraiment, j'étais pas bien là, je me sentais mal là.
Oh. En tout cas, donc ça fait le tour de notre point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du film Neuf, le film, une comédie québécoise tournée par un collectif, donc ce film à sketch, neuf réalisateurs et réalisatrices qui proposent ça. C'était notre point de vue, nous, on n'est pas d'André Roux, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante, nouvellement 28 ans.
Il faut mettre des bons mots sur les bonnes émotions. On idéalise souvent les gens, les relations.
Annabelle, toi et moi, on est là pour s'aider.
C'est beau quand même, hein, la grande place.
Je t'aime aussi.
Bravo, Claudia.
Avec toi, le voltage est infini.
Dans la réalité, c'est toujours un peu décevant.
T'es agressive.
Je suis très bien, surtout depuis que je fais du yoga. Je suis plus capable de voir ton petit crise de sourire hébété tous les matins.
Là, j'espère que t'es consciente que je pourrais pogner les nerfs. Hein?
Ah!
T'es nul et surtout sans talent.
C'est le décalage entre le fantasme et la réalité.
Je sais pas par où commencer.
C'est compliqué, mais c'est simple en même temps.
Action.
Ah! On est prêts.
Voyons! Mais c'est elle, c'est collé dans le vide, on était pas prêts!
Est-ce que je savais qu'on aurait dû acheter un tout inclus à Cuba de tabarnak?